VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. La guerre contre Boko Haram, le président tchadien promet d'anéantir le groupe islamiste nigérian. Idriss Déby Itno affirme savoir où se trouve Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, et il dit qu'il n'hésitera pas à l'éliminer s'il refuse de se rendre. Nicolas Pineau.
Idriss Déby Itno a lancé cet avertissement mercredi à l'issue de sa rencontre avec son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, en visite à N'Djamena. Le président tchadien explique que Shekau a intérêt à se rendre, nous savons là où il est. S'il refuse, il va subir le même sort que ses camarades ont subi. Selon Idriss Déby, le chef de Boko Haram aurait fui Dikwa après la prise de la ville par l'armée tchadienne, c'était le 17 février. Le chef de l'État tchadien promet de gagner la guerre contre les djihadistes et d'anéantir Boko Haram. L'heure a sonné pour tout musulman du Tchad, du Niger ou d'ailleurs, de se réveiller et de faire face à ce qu'on appelle le terrorisme islamique. Il faut faire face à ces criminels qui détruisent notre belle religion, a insisté M. Déby. Selon certaines estimations, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces armées nigérianes ont fait plus de 13 000 morts dans le nord-est du pays depuis 2009.
Des dizaines de milliers de Nigérians ont également cherché refuge au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins. Exemple, les 16 000 nouveaux réfugiés arrivés récemment dans l'extrême nord camerounais après avoir fui les combats entre les forces armées régionales et les militants de Boko Haram. Des précisions avec Roselyne Okoro, représentante adjointe du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés au Cameroun, au micro de Camille Gros-Didier.
Nous avons reçu les informations des autorités faisant état des 16 000 nouveaux réfugiés dans les localités de Makaria, Logon, Bani et Fotokol, juste au sud du lac Tchad. Et nous ne sommes pas vraiment à mesure de confirmer exactement parmi les 16 000 si tout le monde est réfugié. Donc il y aura un screening qui sera fait déjà sur place parce qu'il y avait soupçon d'infiltration de Boko Haram parmi ces personnes-là. Donc il y a d'abord un screening militaire qui sera fait et ensuite l'OHCR va faire son profilage, son screening aussi pour voir si ces personnes donc sont effectivement des réfugiés avant de procéder à leur relocalisation.
S'ils sont relocalisés, où comptez-vous les emmener?
Il y a déjà deux camps de réfugiés qui sont pas trop loin de la ville de Maroua, qui a le camp de Minawao. Bon, ce camp est déjà plein, est déjà saturé, mais les autorités locales nous avaient désigné un deuxième camp qui s'appelle Gawar, qui est tout à fait proche de Minawao, à peu près 2 kilomètres de Minawao. On va les transférer dans le camp de Gawar.
Vous dites que le camp de Minawao est déjà saturé. Combien de personnes se trouvent déjà dans ce camp?
Nous sommes à 32 600 pour l'instant.
Roselyne Okoro, représentante adjointe du HCR au Cameroun. Au Burkina Faso, révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections présidentielles et législatives du 11 octobre 2015 et des municipales du 31 janvier 2016. C'est le président de la transition, Michel Kafando, qui a donné en personne à Kaya, à 100 km de Ouagadougou, le coup d'envoi de cette campagne lancée hier par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le point avec notre correspondant sur place, Zoumana Ronogo.
Avoir sa carte d'électeur sous le régime de Blaise Compaoré n'était pas la préoccupation de beaucoup de Burkinabés, surtout la frange majoritaire jeune. Les raisons suivant ce vox pop.
La jeunesse, 80% s'en fichait pas mal des cartes d'électeurs. Pour eux, ce sont des trucs machins.
En tout cas, autant de Blaise là, si tu votais ou tu ne votais pas, c'est la même chose. Il n'y aura pas de changement aussi.
Si les uns et les autres avaient des motifs pour refuser de participer aux élections, ces raisons sont désormais caduques à la faveur de l'insurrection populaire. Tel est le sentiment du président de la transition, Michel Kafando.
Dans ce vent de renouveau et de liberté insufflé par la transition. Plus rien ne devrait être invoqué par qui que ce soit pour ne pas s'inscrire sur la liste électorale.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Bénin, la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, est finalement prête. Elle a été remise officiellement cette semaine à la CENA, la Commission électorale nationale autonome, pour servir de base aux prochaines législatives. Ce qui met fin à toute suspicion sur la non-tenue éventuelle des élections du 26 avril 2015 dans le pays. Des détails avec notre correspondant sur place, Peggy Ludovic Dagba.
La liste électorale permanente informatisée a été remise officiellement à la Commission électorale nationale autonome ce 4 mars 2015. Un acte qui vient définitivement installer dans ses prérogatives d'organisatrice des prochaines élections législatives la Sénat, à en croire son président Emmanuel Tiando.
Avec la LEPI que nous recevons aujourd'hui, nous pouvons rassurer le peuple béninois que le processus électoral est définitivement entré dans sa phase très active parce que la LEPI constitue l'épine dorsale de l'organisation des élections dans notre pays, comme le prévoit notre code électoral. La poursuite du processus débouchera bientôt sur l'organisation des élections législatives. La Sénat prend l'engagement aujourd'hui, en recevant cette liste, d'œuvrer de façon diligente à l'organisation de ces élections législatives prévues pour le 26 avril 2015.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Conflit au Soudan du Sud, course contre la montre au pourparler d'Addis Abeba visant à mettre fin à la guerre civile dans la plus jeune nation du monde. Les belligérants ont jusqu'à minuit, heure locale, aujourd'hui pour conclure un accord. Sinon, la résolution adoptée mardi par l'ONU ouvre la voie à des sanctions contre ceux qui entravent le processus de paix. Une résolution critiquée par certaines parties aux négociations, chez Ruben Dorsil.
Après des mois de frustration, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre à exécution le mardi 3 mars sa menace d'imposer des sanctions tant au gouvernement qu'à la rébellion, à moins que les deux parties n'arrivent à un accord détaillé de partage de pouvoir au plus tard le 5 mars. Pour Goy Joyul, un membre de la délégation de l'opposition sud-soudanaise, c'est une décision prématurée. Il fait pourtant remarquer qu'en dépit du malaise causé par cette résolution qui intervient durant les négociations, l'opposition salue le vote à cause de ceux qui font obstacle à la paix. Si rien n'est conclu aujourd'hui et que l'ONU impose des sanctions, celles-ci auraient pour effet de geler les avoirs et privilèges de voyage de n'importe quel individu considéré comme obstruant la paix ou coupable d'abus de droits humains. En cas de violation d'un accord par les deux camps, un embargo sur les armes pourrait s'en suivre.
La Banque mondiale fait son mea culpa sur les conséquences néfastes des déplacements forcés de population dans le cadre des projets qu'elle finance. Des précisions avec Morgane Guiriec.
Nous avons examiné ce que nous faisons dans ce domaine et ce que nous avons trouvé suscite chez moi de profondes inquiétudes, reconnaît le président de la Banque mondiale. Jim Yong Kim déplore plusieurs problèmes importants. Premièrement, la Banque mondiale n'a pas assez contrôlé les projets impliquant des déplacements de population. Deuxièmement, les plans n'ont pas été appliqués de façon correcte. Enfin, explique le président de la Banque mondiale, les instruments de contrôle suffisants pour assurer que les politiques sont respectées n'ont pas été mis en place. Nous ferons mieux, promet Jim Yong Kim. Il a annoncé le lancement d'un plan d'action pour y remédier.
Maintenant, la minute économique avec Nathalie Barge.
Le produit intérieur brut de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a progressé de 6,6% en 2014 contre 5,9% l'année précédente, a annoncé hier à Dakar le gouverneur Tiemoko Meliet-Kone, président du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, rapporte l'agence de presse africaine. Selon M. Kone, la performance est due à l'amélioration de la production agricole, du secteur industriel et des services marchands, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Au Zimbabwe, l'ouverture de la campagne de commercialisation du tabac hier s'est traduite par une émeute de fermiers mécontents du niveau des prix affichés qu'ils estiment très bas, indique l'APA. Les protestations ont été générées par une chute soudaine des prix qui sont passés de quelque 3,50 $ le kilo à l'ouverture de la séance à 6 cents le kilo en milieu de matinée.
Pour terminer, poursuite à Boston du procès de Joe Carl Tsarnaev, qui est accusé d'avoir perpétré en 2013 l'attentat à la bombe qui avait fait 3 morts et 264 blessés à la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Hier, à l'ouverture de son procès, son avocat Julie Clark a dit au jury que son client a aidé à commettre ce crime, mais elle a soutenu qu'il avait agi sous l'influence de son frère Renata Merlan, qui était le vrai cerveau derrière le complot. En tentant de blâmer Tamerlan, la défense espère convaincre le jury de ne pas condamner à mort son client, qui est âgé maintenant de 21 ans.
Soyez au cœur de l'info sur